La vie comblée, la semaine dernière, Normand a vu, on a vu ensemble où trouver l'espoir dont vous avez besoin. Cette semaine, Dieu peut panser vos blessures voilées. Et on va aller comme ça pendant 8 semaines. Maintenant, j'aimerais vous encourager à inviter des personnes qui, soit qui sont chrétiens. Les personnes chrétiennes qui se sont éloignées du Seigneur, vous voudriez peut-être les aider à revenir au Seigneur. Envoyez-les sur notre site Internet. Ils peuvent écouter déjà la prédication de la semaine dernière. Dans quelques jours, ils vont pouvoir écouter la mienne là. Apportez-leur des cassettes, des CD. Et essayez de les encourager à faire un pas. Des fois, les gens vont commencer comme ça, juste en suivant sur le net, puis après quelques semaines, ils vont faire un pas, ils vont dire « OK, je vais aller l'écouter en personne, ça commence à m'intéresser ». Et prier pour des gens comme ça, c'est entre autres dans ce but-là qu'on fait cette série, de pouvoir s'adresser aux personnes qui sont près du Seigneur, mais des gens aussi qui se sont éloignés du Seigneur ou qui ne le connaissent pas encore. Alors, je vous encourage à vous en servir de cette manière-là. Ce matin, j'ai une petite question pour vous, juste pour se mettre dans le bain un peu. Je veux voir à quelle sorte de groupe je m'adresse, d'accord? Alors, on va faire un petit questionnaire à main levée, juste pour vous connaître. Combien de personnes ici ont déjà eu une fracture, un os cassé, un bras brisé? Un os cassé. On lève la main. OK, on garde la main levée, s'il vous plaît. Combien d'entre vous avez déjà eu plusieurs fractures en même temps? Dans le même accident, on garde la main levée. Combien ont déjà eu plusieurs fractures dans le même accident? OK. Combien ont déjà eu des points de suture? On garde la main levée. Ça commence à être magané comme groupe, là. Combien de personnes ont déjà dû subir une chirurgie, une intervention chirurgicale? OK. On va voir si vous êtes plus tourmenté que le premier service. Je monte un petit peu la barre. Combien ici ont déjà été blessés par un couteau? Oh, ça peut être un canif suisse dans un camp de jeunes, là. Ça peut être dans une ruelle sombre aussi. Et combien de personnes ont déjà été blessées par balle? Premier service, j'en avais plusieurs. Non, pas une balle de baseball, une balle de fusil. J'en avais plusieurs au premier service. Incroyable, hein? Incroyable. Fait qu'on a une gang pas mal maganée. Mais ce matin, on va pas parler de ces blessures-là, celles qui sont extérieures. On va vous parler des blessures cachées. Celles pour lesquelles vous n'auriez pas voulu lever la main ce matin. Parce qu'elles sont secrètes, elles sont à l'intérieur, et on veut pas présenter ça à n'importe qui. On va parler des blessures cachées. Et ce sont tous ces souvenirs qui sont douloureux, des souvenirs du passé qui font encore mal, qui refont parfois surface. Pour certains, c'est des souvenirs d'abandon, des souvenirs d'abus. Certains ont des souvenirs d'avoir été ridiculisés ou critiqués durement, même haïs. Ou avoir été victime de préjugés qui vous ont brisé. Certains ont souffert d'abus physiques, spirituels, sexuels, émotionnels. Maintenant, d'où nous viennent toutes ces blessures cachées? De partout. La société, des préjugés sociaux. Certains ici ont souffert de préjugés sociaux et ça vous a blessé, ça vous a marqué. Certains ont été blessés dans leur famille. Et les blessures infligées par la famille, ce sont celles qui font le plus mal, qui sont le plus profondes. Ça peut être par des parents, ça peut être des enfants dans la famille, un frère, une sœur, un oncle, une tante, qui vous ont blessé. Et c'est celles qui sont le plus longues à guérir souvent. Mais ça peut être aussi un collègue de travail, un ami, ou même dans l'église. Peut-être quelqu'un dans l'église vous a blessé. Ça peut être aussi dans la cour d'école lorsque vous étiez jeune. Ça peut être extrêmement dur, une cour d'école, pour un petit enfant, lorsque tu es mis à l'écart, puis on commence à rire de toi, à se moquer de toi. Et vous êtes resté là, vous êtes resté avec ces blessures-là. Peut-être que c'est ça votre histoire à vous. Mais les blessures viennent de partout. Absolument partout. Et je suis passant depuis plusieurs années maintenant, et j'ai parlé à beaucoup de personnes de choses qu'elles ont vécues, de choses difficiles, et 2 leçons importantes que j'ai apprises de ça. La première, tout le monde a des blessures cachées. Vous pouvez le nier, vous pouvez dire non, mais tout le monde en a. Tout le monde a au moins une cicatrice émotionnelle qu'un proche vous a laissée en souvenir. Tout le monde en a. Et la deuxième chose que j'ai appris avec les années, c'est que les blessures émotionnelles prennent beaucoup plus de temps à guérir que les blessures physiques. Et ceux qui sont passés par des traumatismes, comme les guerres, ou qui ont passé par un feu, ou toutes sortes de choses comme ça, des accidents graves. Je parlais même avec une dame lorsque j'étais à Los Angeles, qui était là pendant le séisme de 84. Et tous ces gens-là vont vous dire que longtemps après que les blessures physiques ont guéri, les blessures émotionnelles intérieures, celles qui sont cachées, prennent encore du temps à guérir. Ça prend plus de temps que ça pour s'en sortir, pour sortir de là. Et c'est là, ça demeure. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ veut guérir ces blessures cachées. Et ce matin, ça va être possible pour vous de vous engager dans ce processus-là, d'entamer ce processus. La semaine dernière, on a vu avec Normand que dans la Bible, Dieu se donne différents noms. Dieu se donne différents noms pour décrire ce qu'il est et ce qu'il veut faire envers nous aussi. Et un de ces noms se trouve dans Exode 15. Dieu dit dans Exode 15, il se présente en disant, « Je suis Jéhovah Rapha, je suis l'Éternel qui te guérit. » Dans le psaume 147 au verset 3, il est dit, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pansent leurs blessures. Dieu est celui vers qui aller lorsqu'on a besoin d'avoir son cœur guéri de blessures infligées. Parce qu'il est Jéhovah Rapha, celui qui guérit, celui qui voit l'intérieur et celui qui peut aller guérir et panser ces plaies-là. Tel est Dieu. C'est comme ça qu'il est. » Maintenant, on peut se poser la question, comment est-ce que Dieu fait ça? Comment est-ce qu'il s'y prend? Parce qu'il y a des personnes ici qui languissent après ça. Vous traînez ça, c'est secret. Des fois, le reste de la famille ne le sait pas. Des fois, il y a une ou deux personnes, un ami qui est au courant. Mais c'est là, vous portez ça pendant des années, des offenses, des blessures, toutes sortes de choses. Et on se demande comment est-ce que Dieu va le faire? Comment est-ce que Dieu va s'y prendre? Ce matin, on va voir ensemble 5 étapes ou 5 pas qui, généralement, font partie d'un processus dont Dieu se sert pour guérir les gens. Quand, lorsqu'on regarde au ministère de Jésus, dans les évangiles, on voit Jésus régulièrement guérir des gens physiquement, c'est vrai? Et plusieurs fois aussi guérir des gens émotionnellement. Maintenant, Dieu s'y prend de différentes manières, mais je vous dirais qu'en général, vous allez trouver dans l'ordre ou dans le désordre les 5 principes qu'on va voir ensemble ce matin lorsque Dieu intervient dans nos vies pour venir guérir des choses. Des offenses, des blessures cachées qui sont là, ce sont des principes que Dieu applique et qu'il vient opérer dans nos vies. Premier principe qu'on voit ensemble ce matin, le premier pas à faire, reconnaître ma souffrance. Vous ne commencerez jamais à vous en sortir tant ou si longtemps que vous ne ferez pas face à vos émotions honnêtement, directement. Et David, le grand roi David, avait appris à être honnête avec lui-même. David savait s'arrêter pour écouter le discours intérieur de son cœur et y faire face. David savait être honnête avec lui-même et écouter ce qui se passait à l'intérieur de lui. Dans les psaumes, David dit à plusieurs reprises, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? » David entendait ce qui se passait à l'intérieur de lui et il se parlait à lui-même. Il y avait ce discours intérieur où il était conscient de ses blessures, de ses déceptions, de ses frustrations, de sa colère. Et il faisait face à ça. Et c'est ça qui a fait que David pouvait grandir dans la foi et avancer dans la vie. Parce qu'il était capable d'être honnête avec lui-même, de reconnaître ce qu'il y avait à l'intérieur de lui. Et ça, c'était fondamental pour qu'il puisse avancer, pour qu'il puisse aller plus loin. David savait que ce qui se passe à l'intérieur du cœur de l'homme est extrêmement puissant. Et que ça vient façonner nos réactions, nos attitudes, notre manière d'agir avec les gens. Souvent, ça vient façonner notre avenir si on ne prend pas le temps de l'adresser, de s'arrêter de faire face à ça. David était conscient de ça. Il savait que tant et aussi longtemps que ce ne serait pas adressé, il continuerait à être abattu. Son âme à l'intérieur serait lourde. Voyez-vous, les blessures qu'on porte à l'intérieur ne disparaissent pas d'elles-mêmes. On peut essayer de les ignorer, on peut essayer de les fuir, mais elles ne vont pas disparaître, elles vont rester là. Et même le livre, l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament, compare l'amertume que les blessures produisent souvent, ou les offenses, il compare l'amertume à une plante qui fait des racines, qui s'enracine, qui s'installe dans le cœur et qui continue à grandir. Les blessures ne disparaissent pas d'elles-mêmes tant qu'elles ne sont pas adressées. Ce n'est pas vrai. Elles vont continuer à être là, et puis elles vont continuer à se multiplier, à produire des fruits négatifs dans notre vie, destructeurs dans notre vie. Certains d'entre vous êtes toujours fatigués. Et ce n'est pas toujours ça la raison, d'accord? Il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent être physiques aussi. Mais il y a certains d'entre vous qui êtes toujours fatigués parce que toutes vos énergies, émotionnellement, sont consacrées à essayer de gérer ces tourments-là intérieurs, ces choses-là. Et vous êtes complètement fatigué, toujours épuisé. Toutes vos énergies vont là-dessus. Parce que vous êtes resté bloqué sur le passé. Vous utilisez toute votre énergie à essayer de gérer ça, de contenir ça. Et Dieu, lui, veut vous amener vers l'avenir. Dieu ne veut pas que vous restiez dans le passé. Dieu veut vous amener vers l'avenir pour se glorifier davantage dans votre vie. Mais vous, vous restez là, bloqué dans le passé. Toutes vos énergies sont là. Il y a une autre personne dans la parole de Dieu qui savait être honnête avec elle-même et qui entendait ce discours. Il savait combien, lorsqu'il y a des blessures dans notre cœur, combien ça peut drainer et mobiliser toutes nos énergies. Et c'est le prophète Jérémie. Jérémie est un prophète à une époque où ses contemporains ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas accepté, ne l'ont pas écouté. Et souvent, régulièrement, Jérémie a été méprisé par les gens du peuple. Les gens se moquaient de lui et ça le blessait. Littéralement, il était insulté, il était blessé d'être méprisé par son peuple, d'être rejeté par son peuple, et il était conscient de ça. Écoutez bien ce que Jérémie dit dans Lamentation 3, verset 19. Il dit « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Jérémie, lorsqu'il s'arrêtait et qu'il prenait conscience de ce qui se passait, de la douleur qui lui était infligée, des blessures qu'il avait subies, en venait à être dans l'abattement, dans une lassitude, dans un épuisement, et tout devient extrêmement lourd. Et il y a certaines personnes qui vivent ça comme ça. Tout est lourd parce que vous portez ça à l'intérieur de vous-même et toutes vos énergies sont là. Et voyez-vous, on vit dans un monde déchu. On vit dans un monde pécheur. Et régulièrement, on se maltraite les uns les autres. On abuse les uns les autres. Et on s'inflige des blessures. Et c'est là, puis on le traîne en nous. Ça fait aucun doute dans mon esprit qu'il y a plusieurs personnes, au nombre qu'on est ce matin, il y a plusieurs personnes ici qui portaient des blessures comme ça depuis des années. Les gens vous ont infligé ça et vous êtes constamment bloqués dans le passé. Et c'est impressionnant, on a toutes sortes de manières de réagir à ça. On a tous nos réflexes à nous. Hein? Moi, j'ai un tempérament sanguin, colérique, et moi, je ne vais pas fuir ça. Je ne vais pas aller pleurer dans mon coin. Vous ne me verrez pas me refermer comme une huître. Je vais attaquer, c'est ça que je vais faire. Si je ne règle pas ça comme le Seigneur le veut, je vais attaquer. Vous ne me verrez pas aller m'écraser. Mais il y a d'autres personnes, eux autres, qui vont fuir ça. Ils ne sont pas capables d'y faire face. Et ils essaient simplement, comme par une espèce de pensée magique, de se dire, c'est réglé, c'est en arrière, je l'ai enfoui, c'est disparu, c'est tassé, ça. Sans l'avoir adressé véritablement. Et d'autres personnes entrent dans des patterns de fuite. Ça peut aller jusqu'à l'alcool, ça peut aller jusqu'à la drogue, ou dans toutes sortes d'aventures sexuelles, où ils vont passer d'un amour à l'autre. Vous vous rappelez, dernièrement, on avait parlé de la Samaritaine qui avait une espèce de vie déréglée comme ça, qui allait d'un amour à l'autre constamment, en quête d'on ne sait pas trop quoi. Et il y a des personnes où ça va se manifester comme ça. D'autres simplement vont donner cœur et âme d'une manière déraisonnable à leur travail, parce qu'en fait, c'est une fuite qu'ils sont en train de faire. C'est une fuite qu'ils sont en train d'expérimenter. Ils essaient de se sauver, de taire ça. Certaines personnes vont essayer d'oublier ça, d'autres vont fuir, certains vont essayer de l'ignorer, d'autres vont se défouler sur des gens autour d'eux. Ça, c'est mon tempérament, ça. Moi, je suis sanguin, je suis colérique. Et si je ne le règle pas, ça va sortir. Ça va sortir et des personnes autour de moi vont souffrir de ça. Parce que je ne garderai pas ça à l'intérieur. Ça va sortir tout croché. Il y a des personnes qui réagissent comme ça. Ils vont se défouler, vont blâmer des gens autour d'eux. Mais ils n'ont rien à faire là-dedans. Non, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui n'est pas réglé puis ça sort tout croche. Et puis, ça affecte les gens autour de nous. D'autres essaient de cacher les abus soufferts parce que souvent, on se sent coupable, même lorsqu'on a été victime. Et ils ne voudraient pas que des gens découvrent ça. On pense qu'à quelque part, c'est de notre faute. Et on ne voudrait pas que d'autres la prennent. Alors, on enfouit ça. Mais en général, ça va refaire surface d'une manière ou d'une autre, tant que ce n'est pas adressé. Toutes ces manières-là d'essayer de gérer les blessures ne fonctionnent pas. Le premier pas que tu dois faire, si tu veux expérimenter cette délivrance que Dieu veut venir opérer dans ta vie, c'est d'être honnête avec toi-même, de reconnaître que c'est là. De reconnaître que la blessure est là. Juste écouter le discours intérieur de ton cœur et voir la colère qui est là, l'amertume, la honte, la frustration, que tu es constamment engagé dans toutes sortes de procès intérieurs avec des gens qui t'ont offensé. Et c'est là, c'est présent, il y a du ressentiment. Et simplement être honnête, le voir, reconnaître comment vous vous êtes senti lorsqu'on vous abandonnait, lorsqu'on vous ridiculisait, lorsqu'on vous insultait, peut-être la honte que vous avez ressentie. Vous devez commencer par reconnaître la douleur, être honnête. Et être honnête avec trois personnes. Premièrement, vous-même. On l'a mentionné. Simplement être capable de vous arrêter et de dire, Seigneur, c'est pas réglé, je sais, c'est là. Je le vois, c'est pas réglé, j'aimerais ça me faire à croire que c'est réglé. Mais non, ça revient. Ça revient dans mes relations, ça revient quand je parle de telle personne. Dès que j'y pense, je vais régler son compte. Ou dès que je suis dans telle situation, ma réaction n'est pas normale. C'est pas moi, ça. Et simplement avoir cette honnêteté avec vous-même, premièrement. Deuxièmement, avec Dieu. C'est important que vous ayez cette honnêteté d'aller déverser votre cœur devant Dieu. Et si vous allez lire les psaumes, prenez le temps cette semaine-ci, si vous ne voyez pas Dieu comme un confident extraordinaire, allez lire les psaumes. Allez lire les psaumes, allez voir comment David déversait son cœur en masse devant Dieu. Il était là, puis ça sortait tout croche, des grands bouts d'un psaume. Et c'est parce qu'il allait devant Dieu qu'il prenait Dieu comme confident que Dieu venait exercer son ministère où on voit après David commencer à revenir à une pensée selon Dieu. Alors c'est important que vous le fassiez. De toute manière, Dieu sait tout ça. Dieu était là chaque fois que vous avez été offensé, que vous avez été blessé. Dieu était présent, il était témoin de ces choses-là. Et Dieu déteste qu'on fasse du mal à ses enfants, à sa création, à ses créatures. Dieu déteste ça. Il était présent, vous n'allez pas le surprendre. Mais Dieu aime et Dieu désire qu'on vienne à lui et qu'on déverse notre cœur devant lui. Et entre vous et moi, ça fait énormément de bien. À partir du moment où Dieu devient votre confident, ça fait énormément de bien. Dieu est un excellent confident. La troisième personne à qui vous devez le confier, c'est une personne qui vous est chère, une personne de confiance. Allez vers une personne en chair et en os, ayez le courage de lui dire, il faut que je te partage quelque chose, je ne peux pas porter ça tout seul. Voyez-vous, on est des êtres sociaux. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on règle tous nos problèmes par nous-mêmes dans notre coin. Et vous avez besoin d'aller juste être honnête et ouvrir votre cœur pour que quelqu'un marche avec vous. Dans une assemblée de notre grosseur, il y a quelqu'un qui a vécu la même chose que vous, je vous le garantis, qui a passé par la même place que vous. Et si vous n'avez pas quelqu'un en qui vous avez confiance, vous hésitez, vous hésiteriez, venez vers nous. On a des assemblées de maisons, c'est des belles communautés chaleureuses. Il y a des gens matures qui sont là, ou venez voir un des anciens, un des pasteurs. Que ce soit nous, ou on va vous diriger vers quelqu'un qui a vécu quelque chose comme vous. Mais on va vous accompagner là-dedans. Juste faire le choix d'être honnête, de reconnaître votre situation, d'être honnête avec vous, avec Dieu, avec une personne qui va pouvoir marcher avec vous à travers ce processus-là. Et simplement vous accompagner. Premier principe, reconnaître. Deuxième principe, deuxième pas à faire, c'est de relâcher, de laisser aller ceux qui vous ont fait du mal. Relâchez, laissez aller la personne qui vous a offensé. Vous ne pourrez jamais vraiment grandir tant et aussi longtemps que vous n'adresserez pas les questions de rancune dans votre cœur d'amertume. C'est vrai. Puis ça va produire toutes sortes d'effets négatifs dans vos vies. Des fois cocasses, mais des fois dramatiques. Un peu comme ce couple qui était marié ensemble depuis plusieurs années, puis ils ont eu une terrible chicane où ça a vraiment mal tourné et ça finit en guerre du silence. Vous savez c'est quoi, hein? Quand les deux se taisent, puis il n'y en a aucun des deux qui va avoir l'humilité de juste reprendre la parole puis commencer à venir humblement pour régler le problème. Alors, ça faisait 7 jours que le silence durait dans le foyer. 7 jours de silence complet. Quand finalement, monsieur s'est réveillé une journée puis il a dit, « Attends un petit peu, j'ai besoin que mon épouse me rende un service. Il va falloir que j'aille lui parler. » Parce que le lendemain, il devait attraper un vol très, très tôt pour son travail. Il devait se réveiller à 5 heures du matin puis il avait besoin que son épouse l'aide à se réveiller. Maintenant, monsieur était très fier, alors il ne voulait pas faire les premiers pas. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un petit bout de papier et il a écrit sur le petit bout de papier, « Réveille-moi à 5 heures AM, s'il te plaît. » Puis il a mis ça sur la table de nuit. Alors imaginez sa surprise lorsque le lendemain matin, il s'est réveillé à 9 heures pour réaliser qu'il avait manqué son vol, il avait manqué son avion, que son épouse était déjà debout. Fait que là, il s'en allait pour aller demander des explications quand il a remarqué une petite note sur sa table de nuit qui disait « Il est 5 heures, réveille-toi. » La rancune peut avoir toutes sortes d'effets. Des fois, c'est drôle, mais des fois, ça peut être dramatique. Des fois, ça peut être très dramatique. Je vous le dis, vous ne pourrez pas avancer dans la vie. Vous ne pourrez pas grandir tant et aussi longtemps que vous n'adresserez pas la question de la rancune dans votre cœur. Vous n'avancerez pas sérieusement. Pour votre bien et pour la gloire de Dieu, vous avez besoin, écoutez bien ça, vous devez un jour renoncer à vous faire justice vous-même. Vous devez un jour renoncer à réclamer la justice pour laisser ça entre les mains de Dieu. Et c'est probablement une des décisions les plus difficiles à prendre dans la vie. Est-ce que je vais passer ma vie à réclamer la justice ou est-ce que je vais vivre libre? Est-ce que je vais passer ma vie à réclamer la justice ou est-ce que je vais avancer dans la vie libre? Et il y a des gens qui passent leur vie à réclamer la justice. Ils s'engagent dans toutes sortes de procès intérieurs parce que constamment, ils veulent défendre leurs droits. Et le pire, c'est que plusieurs d'entre vous avaient expérimenté que le jour où tu réussis à te faire justice toi-même, quand tu réussis à leur rendre leur coup, il n'y a absolument rien qui est réglé. Et il y a des personnes ici, je suis certain, que vous avez réussi à le faire. Vous avez eu justice, vous avez rendu les coups pour réaliser que le problème n'était pas réglé du tout. Et que le problème était encore là, qu'il était entier, qu'il demeurait là, parce que ce n'est pas la manière de régler le problème. Il y a une seule manière de régler, il y a un seul moyen, et c'est le pardon. Le seul moyen d'être libéré des offenses, des blessures que des gens nous ont infligées, ce n'est pas de régler les comptes. c'est de pardonner à ces personnes-là et de les libérer. Et certains d'entre vous se sont engagés, ont essayé de le faire, et ils ont vu que ça ne marchait pas. Ça ne vous a pas libéré du tout. Maintenant, ce que vous vous dites, et c'est ça qui nous retient souvent d'être prêt à pardonner, d'être prêt à relâcher les gens, vous dites, oui, mais ils ne méritent pas, Yannick. Si tu savais ce qu'ils m'ont fait, ils ne méritent pas que je les pardonne. Mais vous avez raison. Vous avez absolument raison. Ils ne méritent pas. Et je ne vous dis pas que vous devez leur pardonner parce qu'ils méritent d'être pardonnés. Je vous dis que vous devez leur pardonner parce que c'est ce que Dieu vous demande de faire. Pour la gloire de Dieu, vous devez simplement les relâcher et les laisser partir. Pour la gloire de Dieu, pour votre témoignage, pour votre bien, pour que vous soyez libres. Tant que vous ne pardonnez pas, tant que vous ne laissez pas aller ces choses-là, entre les mains de Dieu, vous ne relâchez pas ces personnes-là, vous restez coincés dans le passé. Vous restez coincé dans le passé et tant ou si longtemps que vous ne pardonnez pas, en quelque sorte, d'une certaine manière, vous demeurez prisonnier des gens qui vous ont offensé, même s'ils ne savent pas. Vous êtes encore leur prisonnier. Un homme a réalisé ça dans l'expérience de sa vie. Cet homme-là s'appelle Reuben Hurricane Carter. Peut-être que vous avez vu le film, il est sorti il y a quelques années. Et cet homme-là a pris conscience, il a réalisé ça. Et juste pour vous donner son histoire vite, le 17 juin 1966, deux hommes noirs ont fait irruption dans un restaurant qui s'appelait Lafayette Grill à Paterson, au New Jersey. Alors ces deux hommes-là entrent, font irruption et ils ont tiré et tué à bout portant trois hommes. Maintenant, Reuben Carter, un boxeur célèbre et un de ses amis, ont été faussement accusés et condamnés pour les trois meurtres lors d'un procès extrêmement médiatisé. Maintenant, Reuben Carter se déclarait, affirmait son innocence. Il a même essayé de se défendre lui-même en cours, mais il a été condamné et il a dû aller passer 19 ans en prison malgré ça. Une fois libéré, Reuben partageait comment il avait choisi de répondre à ces injustices incroyables qu'il avait souffert parce que des gens lui demandaient souvent, des journalistes, des personnes. Et voici ce qu'il dit. Je vous le lis littéralement. « On me demande souvent si je suis amer. » Et ma réponse est toujours, après avoir tout bien considéré, le fait que les meilleures années de ma vie, soit de 29 à 50 ans, m'ont été volées, le fait qu'on m'a empêché de voir mes enfants grandir. Est-ce que vous ne pensez pas que j'aurais le droit d'être amer? Est-ce que n'importe qui passerait par là n'aurait pas le droit d'être amer? En fait, ce serait très facile de le devenir. Mais il n'a jamais été dans ma nature de prendre les voies faciles. Si je n'ai appris qu'une chose dans la vie, c'est que l'amertume ne détruit que celui qui la porte en lui. Et de permettre à l'amertume de contrôler ou d'infecter ma vie, de quelque manière que ce soit, ce serait de permettre à ceux qui m'ont emprisonné de me prendre plus que les 22 années qu'ils m'ont déjà volées. Et ça ferait de moi un complice de leur crime. Voyez-vous, ne pas pardonner, c'est rester prisonnier. C'est rester là, demeurer prisonnier. Dans la lettre aux Romains, au chapitre 12, verset 17, Paul dit, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Et je vous lis comment la semeur rend ce passage. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes, autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. Une des raisons pour lesquels on se met tellement à l'envers, c'est qu'on oublie cette vérité, que Dieu est témoin de toutes les injustices qu'on a pu vivre. On oublie que Dieu était là et que Dieu est un juste juge qui a vu nos douleurs. On oublie ça et on a l'impression que c'est nous qui devons prendre en main et aller nous faire justice nous-mêmes. Mais ce n'est pas notre rôle. Dieu dit, laisse-moi m'occuper de ça, Yannick. Moi, je suis juste. Et un jour, tout le monde va rendre compte pour ce qu'il a fait. Laisse-moi m'en occuper, c'est mon rôle de faire ça. Dieu, en son temps, va rendre justice pour tout ce qui a été fait. Alors, vous pouvez soit passer le reste de votre vie à essayer de vous faire justice vous-même, ou laisser Dieu s'occuper de ça. Et vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre. Soit que vous laissez entre les mains de Dieu, ou soit que vous passez le reste de votre vie à essayer de vous faire justice vous-même. Dans le psaume 56, au verset 9, il est écrit, « Mes larmes, tu les gardes dans ton outre. Leur compte est inscrit dans ton livre. » Saviez-vous que Dieu a compté chacune des larmes que vous avez versées? Chaque fois qu'il y a une larme qui a coulé de vos yeux, chaque fois qu'il y a une blessure qui a été infligée, Dieu était là, assistait à ça. Il n'y a aucune souffrance qui lui a échappé. Dieu était présent et il en tient un compte juste. Alors voyez-vous, vous avez un choix à faire. Parce que Dieu les a comptés, Dieu les a vus. Mais ça vous demande d'accepter à un moment de votre vie que vous allez laisser Dieu s'occuper de rendre justice. Que vous allez laisser faire, que vous allez renoncer à vous faire justice vous-même. Vous allez prendre une décision de laisser ça entre les mains de Dieu. De toute façon, on est tous injustes. Dieu est juste pour juger ces choses-là. Mais quand on parle de nos blessures à nous, on manque d'objectivité. On manque d'objectivité et on doit laisser ça entre les mains du Seigneur. C'est lui qui est juste, c'est lui qui sait mesurer ces choses-là. Jésus comprend très bien ce que c'est que d'être abusé, d'être maltraité. Il a été maltraité, lui a été abusé. Et je veux vous encourager ce matin à prendre la décision de suivre l'exemple de Jésus. Faire comme lui. Voyez-vous, dans 1 Pierre 2, 23, en parlant de Jésus, Pierre nous dit, « Lui qui injuriait ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace. » Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il remettait sa cause entre les mains du juste juge. Et je vous encourage à suivre l'exemple de Jésus. Jésus a subi 5 blessures physiques avant sa mort. Il était blessé à la tête, au visage. On a lacéré son dos avec les fouets des Romains. On a percé ses mains et ses pieds. Et ces blessures-là n'étaient pas les blessures les plus profondes. Les blessures les plus profondes, c'est celles qu'on ne voyait pas, celles qui étaient à l'intérieur. Parce qu'il a été trahi, parce qu'il a été méprisé, parce qu'il a été haï, parce qu'il a été abandonné par ceux qui l'aimaient, ceux pour qui il s'était donné. Parce qu'on l'a rejeté, parce qu'on a abusé de lui. Mais voyez-vous, Jésus, au lieu de chercher à régler son compte, est-ce qu'il n'aurait pas pu le faire? Au moment où on abusait de lui, est-ce qu'il n'aurait pas pu décider de se faire justice lui-même, de leur régler leur compte? Il aurait pu le faire. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a étendu les mains, puis il regardait son père au ciel. Je revois Simon dans la pièce. Il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il a laissé ça entre les mains de son juste juge, celui qui voit tout. Voyez-vous, pourquoi est-ce que vous devez pardonner? C'est parce que Dieu vous a pardonné premièrement. Dieu vous a pardonné. Et vous devriez pardonner parce que vous allez encore avoir besoin de pardon. Vous allez encore avoir besoin que Dieu vous pardonne et que des hommes et des femmes vous pardonnent. Vous allez encore avoir besoin de ça. Et Dieu nous dit qu'on doit pardonner si on veut qu'il fasse la même chose avec nous. Et vous devriez pardonner pour la gloire de Dieu, pour votre bonheur, afin que vous puissiez être libre de manifester la gloire de Dieu dans votre vie, plutôt que de rester dans le passé. Vous devez passer à l'avenir et avancer. Et je vous rappelle juste le passage que je citais tout à l'heure. Je vous le lis dans Hébreux 12, 15. « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés. » Vous devriez pardonner pour le bien des gens autour de vous aussi. Parce que voyez-vous, l'amertume que vient produire l'absence de pardon dans nos cœurs, c'est un poison. Et tôt ou tard, ça commence, vous commencez à blesser des gens autour de vous. Des personnes autour de vous qui n'avaient rien à voir avec ça. Peut-être vos enfants les premiers. Qui n'avaient rien à voir avec ces offenses qui vous ont été faites, avec ces blessures. Ces gens-là commencent à en souffrir parce que vous portez ce poison vous-même. Et ça sent dans vos relations autour de vous. Mais non seulement ça. L'auteur de l'Épître aux Hébreux me dit que c'est contagieux, cette affaire-là. C'est un mal qui est contagieux et vous allez le transmettre autour de vous. Et il y a des familles qui se passent ces attitudes d'amertume, de frustration, de rancune, de ressentiment, de génération en génération. Vous en avez sûrement connu. Des gens amers qui sont toujours en train de compter les fautes des gens, toujours en train de réclamer justice. Et ils l'enseignent à leurs enfants. Les enfants font exactement la même chose. Et il se passe ça de génération en génération. Et il y a quelqu'un, à un certain moment donné, dans le processus, qui doit prendre la décision d'arrêter ça. De mettre fin à ça et de relâcher. De laisser aller ceux qui ont offensé, de pardonner. À cause que Dieu vous a pardonné, simplement de relâcher, de mettre fin à ça. Premièrement, reconnaître, reconnaître, être honnête avec moi-même, deuxièmement, relâcher, laisser la personne aller, la laisser quitter. Le troisième principe, remplacer les mensonges par la vérité de la parole de Dieu. Voyez-vous, notre cerveau enregistre toutes nos expériences, tout ce qu'on s'est fait dire, tous les traitements qu'on a reçus. Notre cerveau enregistre tout ça, que ce soit bon, que ce soit mauvais, sans discrimination, il les enregistre tous. Et bien souvent, malheureusement, il ne fait pas non plus la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est mensonger. Dans ce qui nous est dit, spécialement lorsqu'on est un jeune enfant, on reçoit ces affaires-là, des mensonges, des fois éhontés, on prend ça pour du cash, on l'enregistre, puis on bâtit notre vie là-dessus. Et ce n'est pas vrai pour tout le monde, d'accord? Ce n'est pas toutes les blessures et tous les mensonges qu'on adopte, mais certains d'entre vous avez bâti votre vie sur des mensonges qui vous ont été lancés par la tête lorsque vous étiez jeune. Des fois, voilà un an, voilà deux ans, voilà trois ans. Même comme adulte, quelqu'un vous a tiré quelque chose par la tête à un moment donné. Vous avez pris ça. Vous avez été blessé, mais vous l'avez pris pour du cash. Puis vous avancez depuis ce temps-là sur cette base-là. Vous construisez votre vie sur cette base-là. Et vous êtes en train d'avancer avec ça. Ce n'est pas le cas pour toutes les blessures, mais pour certaines personnes, c'est ça qui se passe. Et certains d'entre vous, alors que vous étiez enfant, vous vous êtes fait dire par des adultes, par des gens qui faisaient figure d'autorité, et ça portait encore plus dans ce temps-là, vous vous êtes fait dire des paroles comme « t'es stupide, t'es pas beau ». Je sais que ça a de l'air insignifiant, hein, pour quelqu'un qui a confiance en lui et que ce n'est pas un problème, mais c'est tellement destructeur. C'est tellement destructeur de lancer ça. En plein visage d'un enfant. Tu n'arriveras jamais à rien. J'ai honte de toi. Pourquoi tu ne peux pas être brillant comme ta sœur ou comme ton frère? Toutes sortes d'absurdités, de monstruosités comme ça, des paroles blessantes, des mensonges, mais de toute manière, des choses qui ne sont pas édifiantes, qui ne construisent pas, mais qui détruisent. Et dans Romains 12, au verset 2, Paul nous dit « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Voyez-vous, Dieu veut nous transformer et Dieu va le faire en venant renouveler notre pensée. Le monde, les gens qui vous entourent ont pu vous suggérer des choses qui étaient fausses, mais Dieu veut venir changer cette manière de penser-là. Il veut venir renouveler votre intelligence et premièrement, vous allez devoir aller dans la prière. Et simplement dire, Seigneur, il y a des choses qui sont fausses dans ma vie. Et des fois, on veut aider des personnes, puis ils ne sont pas prêts à reconnaître qu'il y a des mensonges qu'ils croient. Et tant qu'ils ne voudront pas le reconnaître, on n'est pas capable d'avancer. On peut juste prier pour eux. Et le premier pas à faire, c'est d'aller de prier, de dire, Seigneur, viens changer ces affaires-là. Ça détruit ma vie, ça nuit, nuit à mon témoignage, je ne suis pas en train de te glorifier. Viens me transformer, viens renouveler ma manière de penser. Ensuite de ça, vous devez remplir votre pensée par la parole de Dieu. Vous devez passer du temps dans la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu se sert de sa parole pour venir changer notre manière de penser, venir mettre les choses en ordre. Alors, vous devez prendre du temps dans la parole. C'est pour ça qu'on a des classes pour adultes. C'est pour ça qu'on a des enseignements dimanche soir. C'est pour ça que dans les assemblées de maison, on discute de ça. On essaie de voir comment ça s'applique dans nos vies. Vous devez prendre du temps dans la parole tous les jours. Prendre du temps avec un frère, une sœur qui sont passés par là, peut-être qui vont vous accompagner, ou juste quelqu'un qui est au même point que vous dans la vie, mais allez ensemble, étudier les Écritures, prier, méditer là-dessus, et laissez la parole de Dieu vous façonner. Et enfin, troisièmement, vous devez accepter de vous voir comme Dieu vous voit. Vous devez prendre la décision un jour de dire, Seigneur, je vais me regarder comme toi, tu me vois, Seigneur. Et je voulais un passage, je vous encourage avec votre feuillet d'aller le voir cette semaine, de prendre du temps dedans. C'est un passage qui est très riche. Et je ne m'étendrai pas dessus ce matin, mais c'est un des plus beaux passages pour comprendre comment est-ce que Dieu nous voit. Dans Éphésiens 1, les versets 4 à 6, Paul dit, écoutez bien ça, « En lui, bien avant de poser la fondation du monde, il nous a choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. » Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Voilà comment Dieu vous regarde à partir du moment où vous êtes en Jésus-Christ. Vous avez placé votre foi en Jésus-Christ. Dieu vous regarde comme saint et irréprochable à cause de Jésus-Christ. Dieu vous regarde comme un enfant qu'il a adopté à cause de Jésus-Christ. Vous êtes son enfant, vous êtes précieux. Et Dieu vous dit... Arrête de garder ces mensonges dans ta vie. J'ai un avenir pour toi, puisque je t'ai choisi pour manifester ma gloire à travers toi. La gloire de ma grâce doit s'opérer dans ta vie pour justement que les gens te voient avancer et qu'ils disent, « Quelle personne extraordinaire! As-tu déjà entendu parler de son histoire passée? » Mais Dieu l'a transformé. C'est la gloire de sa grâce. Et c'est comme ça que Dieu vous regarde. Dieu vous regarde comme caché derrière Christ, comme un enfant choisi à qui il veut donner un avenir et qui veut amener vers l'avant. Maintenant, les psychologues ont souvent démontré que les gens les plus importants à nos yeux, prenez la personne la plus importante à vos yeux, ce que vous pensez qu'elle pense de vous, l'opinion que vous pensez de vous a tendance à vous influencer sur la manière que vous vous regardez vous-même. Et moi, je vais vous suggérer de prendre Jésus-Christ et de le placer au centre de votre vie, de vous assurer qu'il est bien la personne la plus importante dans votre vie, la personne qui occupe le plus de place dans votre cœur, afin que seule son opinion sur vous soit vraiment importante. Parce que lui ne vous mentira pas. Lui ne vous détruira pas. Mais vous allez apprendre à vouloir marcher sous son regard pour lui plaire à lui, pas à quelqu'un d'autre qui pourrait vous blesser, qui pourrait vous offenser, qui pourrait vous mentir dans un moment de faiblesse, qui pourrait vous détruire. Mais si Jésus-Christ est la personne la plus importante dans votre vie, lui ne vous décevra pas. Il ne vous mentira pas, il va vous construire. Dans la mesure où vous allez chercher à lui plaire, à marcher pour lui, vous allez être béni parce qu'il va être la personne la plus importante à vos yeux. Alors, c'est une décision que vous devez prendre. Un jour, vous devez prendre la décision soit de continuer à rester dans le passé, de continuer à rester là dans un paquet de mensonges, ou de décider que vous allez croire Dieu et le regard qu'il dépose sur vous. Et vous allez dire, Seigneur, c'est comme ça que je choisis de me regarder maintenant. Je prends cette décision-là aujourd'hui, et chacun, c'est un processus, mais ça commence par un jour où je prends cette décision-là. J'ai passé par là, je vous le dis. Au début de ma vie chrétienne, j'ai lutté pendant 2 ans. Avec toutes sortes d'affaires qui me restaient puis qui façonnaient l'image que j'avais de moi-même. Ça va peut-être m'arriver encore dans l'avenir. Peut-être que je vais attraper un mensonge, qu'on va me tirer par la tête un jour, je ne sais pas. Mais 2 ans au début de ma vie chrétienne, j'ai lutté avec ça dans la prière. Puis un jour, j'ai dit, Seigneur, je m'engage là-dessus. C'est ce que toi, tu penses de moi qui compte, Seigneur. Et Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Ça a pris du temps, Dieu l'a fait. Il est venu changer ça. Aujourd'hui, je peux dire que je suis libre de ça. Et les personnes qui m'avaient offensé, je suis libre de les aimer. Parce que Dieu m'a fait passer à travers ce processus-là. Quatrièmement, si vous voulez être guéri de toutes ces blessures cachées, vous devez réorienter votre regard vers votre vie future, vers Dieu. Vous devez décider de réorienter toute votre vie vers l'avenir, vers la personne de Dieu. Parce que tant qu'on reste coincé dans le passé, dans les vieilles querelles, on reste dans l'avenir. On n'est pas en train de bâtir. C'est un peu comme ce chrétien qui était toujours pris dans toutes sortes de querelles. Imaginez, le gars s'échoue comme un naufragé sur une île déserte. Alors, il est seul pendant plusieurs années, tout seul sur son île déserte, quand un jour, un navire vient à passer. Puis c'est un gars qui avait toutes sortes de rancunes, toutes sortes de querelles, puis là, bon, il était seul par lui-même, fait que on aurait pu espérer que ça règle son problème, n'est-ce pas? Mais un jour, un navire vient à passer, fait qu'il commence à faire toutes sortes de signaux, des feux, toute l'équipe pour attirer leur attention. Le navire le voit, l'équipage approche le navire, le capitaine descend sur la berge, puis là, il commence à jaser avec lui, puis tellement content de pouvoir sauver quelqu'un comme ça qui vivait sur une île déserte depuis des années. Après un certain temps, il commence à lui poser des questions parce qu'il y avait 3 huttes de construites sur le rivage. Fait qu'il lui dit, c'est quoi les 3 huttes que tu as construites là, tu sais? Fait que le naufragé lui dit, mais la première hutte, c'est ma maison. OK. Fait que le capitaine dit, c'est correct. Maintenant, pourquoi une deuxième hutte? Ah, ben, il dit, tu sais, il dit, c'était long, je me suis construit une église. La deuxième, c'est mon église. OK. Fait que le capitaine dit, maintenant, pourquoi il y a une troisième hutte? Alors, tout d'un coup, le naufragé devient très sérieux, puis un peu sur un ton insulté. Il dit, ah, ça, c'est l'église où j'allais avant. Et il y a des chrétiens qui sont comme ça. Il y a des chrétiens qui sont comme ça, qui traînent des vieilles rancunes. Qui traîne des vieilles rancunes. Et voyez-vous, ce gars-là était tout seul, puis ça continue à le détruire. Peut-être que vous êtes seul dans votre coin. Mais Dieu veut vous amener à regarder vers l'avenir. Dieu veut vous amener ailleurs. Et Dieu veut construire votre avenir avec vous. Dieu veut aller vers l'avant. Arrêtez de regarder en arrière, de rester là. Et regardez à ce que Dieu veut faire de votre vie. Il y a beaucoup de thérapies dans le monde qui nous amènent dans le passé pour aller reconnaître des choses, des blessures qu'on a eues. Mais le problème, c'est que tu restes là. Et il y en a beaucoup où tu restes là. Alors, il y a plein de personnes qui se sont engagées dans des thérapies. Ils ont vu des fautes, ils ont vu des blessures, puis ils sont restés là. Ils sont restés là à contempler ces blessures-là. Et tout ce que ça fait d'eux des personnes qui sont davantage centrées sur elles-mêmes. Mais Dieu ne fait pas ça. Dieu nous amène à prendre conscience. Dieu nous amène à pardonner, à relâcher les personnes. Dieu nous amène à changer notre manière de penser, les blessures qui ont été infligées, les mensonges qui ont été là, pour nous amener vers l'avenir. Parce que Dieu veut construire notre avenir. Dieu veut préparer un avenir pour nous et il a un avenir pour nous. Alors, je dois prendre à un certain moment la décision d'aller vers l'avant. Je reviens sur un passage, je l'ai mentionné tantôt, Normand l'a cité la semaine dernière, c'est dans Lamentation de Jérémie au chapitre 3, les versets 21 à 23. Normand le citait la semaine dernière pour souligner l'importance d'espérer en Dieu. Maintenant, regardez la décision que prend le prophète Jérémie, d'accord? Après avoir parlé de ses blessures, des offenses, de comment il s'était senti, Jérémie va prendre une décision. Il prend une décision de se tourner vers Dieu et de regarder vers l'avenir. Écoutez bien le passage. Lamentation de Jérémie 3, 21 à 23. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! » Voyez-vous, Jérémie a décidé un jour de réorienter sa vie vers l'avenir. De réorienter sa vie vers la personne de Dieu, de croire que Dieu avait un avenir pour lui, malgré les blessures du passé, de considérer seulement la personne de Dieu. Est-ce que vous voyez la décision lorsqu'il dit « Je veux repasser en mon cœur ». Un jour, il a pris cette décision-là. Et chacun d'entre nous, on doit décider un jour de renoncer à ce proverbe complètement faux pour un chrétien qui dit que le passé est garant de l'avenir. C'est pas vrai. C'est pas vrai pour le chrétien. À partir du moment où Dieu, où Jésus-Christ vient intervenir dans ta vie, ton passé n'est pas garant de ton avenir. C'est pas vrai ça. Parce que Dieu te prépare un avenir où il veut se glorifier à travers ta vie. Et donc, il veut venir régler ces choses-là. Il veut t'amener plus loin, te faire grandir pour que tu puisses être une bénédiction aussi au milieu de ton peuple. Et quand est-ce que tu sais que Dieu t'a guéri? À quel moment est-ce que tu sais que les blessures passées sont guéries? C'est le jour où tu commences à aller partager le remède. C'est le jour où tu commences à aller vers d'autres personnes qui ont été offensées, qui ont été blessées. Et tu commences à aller partager le remède. Et ça, c'est le cinquième pas. Tant que tu ne fais pas ça, la maturité par rapport à tes blessures, à tes offenses passées, n'est pas encore atteinte. Tant que tu n'arrives pas à ce cinquième principe, à ce cinquième pas, où tu vas aller rejoindre d'autres personnes qui ont besoin d'être guéries par le Seigneur et que tu vas aller les aider. Et c'est comme ça que le Seigneur travaille. Tant que tu n'arrives pas là, tu n'es pas entièrement guéri. Mais Dieu veut faire ça. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu, il nous sauve pour que nous allions aider des personnes. Dieu vient opérer des transformations dans nos vies pour que nous soyons une bénédiction pour d'autres personnes. Dieu vient nous aimer pour que nous allions et que nous aimions d'autres personnes. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 1, les versets 3 et 4. Écoutez bien ça. C'est vraiment un beau passage. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. » C'est comme ça que Dieu travaille. Ça, c'est l'Église de Christ. Dieu vient apporter la consolation dans le cœur qui est troublé. Il vient le transformer afin qu'à son tour, dans sa maturité, à son tour, il aille vers l'autre et qu'il apporte le remède. Et Dieu va le faire. Dieu va se servir de vos souffrances, de vos blessures qui vous ont été infligées. Il va venir, il va vous amener à les reconnaître. Je répondrai à ta question après, OK? Dieu va venir et il va vous amener à les reconnaître. Il va vous amener à relâcher les personnes qui vous ont blessé. Il va vous amener éventuellement à changer les mensonges qu'il y a dans votre vie. Il va vous amener à vous tourner vers le futur. Vous détourner les regards de la blessure pour vous tourner vers celui qui vous a guéri plutôt que de rester dans le passé. Pour enfin que vous puissiez à votre tour devenir une bénédiction. Et c'est ça l'Église. Alors il y a des personnes ici dans l'Église qui ont vécu les mêmes choses que vous, je vous le garantis. Au nombre qu'on est, il n'y a personne ici qui a vécu quelque chose d'unique, je vous l'assure. Et Dieu peut mettre sur votre chemin, sur votre route, des personnes qui ont vécu des choses similaires, qui ont été guéries par Dieu, qui ont appris à grandir avec Dieu. Et Dieu va venir vous bénir à travers ça. Dans la mesure où vous allez être honnête, vous allez le reconnaître, vous allez le partager. Dieu va venir le faire. Et un jour, vous allez avoir la joie d'aller vers quelqu'un et de partager le remède à votre tour. De dire, regarde, j'ai passé par là. Laisse-moi juste t'accompagner. Il n'y aura pas de jugement, je te comprends. Je sais tellement ce que c'est, mon ami. Laisse-moi juste marcher avec toi. Mais ça prend un premier moment où vous prenez une décision. Vous décidez de mettre fin à ça, d'être transformé par Dieu pour qu'un jour vous puissiez être une bénédiction. Décidez de pardonner pour que les gens autour de vous puissent être édifiés. Et je termine avec une histoire vraie. Je l'ai trouvée touchante. Je sais que c'est une histoire vraie. Ça me touche de voir à quel point cet homme a pris la décision de prendre le remède de Dieu afin d'être une bénédiction autour de lui. C'est Brian Chappell qui raconte ça. C'est le dirigeant d'un séminaire théologique. Et il raconte l'histoire d'amis à lui. Voici. Il dit, « Des amis à mon épouse et moi ont grandi dans la même église que nous. Ils ont une jolie maison, de bons enfants et d'excellents emplois. Mais l'épouse a un problème mental et émotionnel sérieux. De temps en temps, elle devient kleptomane, vole des choses de sa propre famille et va jouer l'argent au gambling. Elle a vu des conseillers, des médecins, des pasteurs et rien n'a pu régler ça de manière permanente. Imaginez un instant que votre épouse vous vole, qu'elle ait porté vos biens qui ont le plus de valeur dans la maison dans un pawn shop, qu'elle retire l'argent du compte de banque et qu'elle vous cache ça parfois pendant des mois pour aller tout perdre ça dans du gambling. Et chaque fois qu'elle a volé l'argent du foyer, mettant toujours en péril leur avenir financier, il lui a toujours pardonné et l'a reprise à la maison. Même lorsqu'elle-même ne pouvait plus se supporter et qu'elle voulait s'enlever la vie, il a refusé de l'abandonner et l'a repris avec lui. Un jour, j'ai demandé à l'époux pourquoi il ne se séparait pas d'elle, malgré la pression des amis et de la famille qui l'encourageaient à le faire. Il m'a répondu simplement et avec courage. Elle est une bonne mère la plupart du temps, et mes enfants ont besoin d'elle. Mais surtout, mes enfants ont besoin de connaître l'amour de leur Père céleste. Et comment pourront-ils croire en un Père dans le ciel qui peut les aimer et leur pardonner si leur propre Père ne pardonne pas à leur mère? Seigneur notre Dieu, viens bénir cette assemblée, Seigneur. Viens bénir cette église. Nous voulons être comme cet homme, Seigneur, qui a appris à emprunter tes sentiers, à pardonner, à relâcher, pour pouvoir garder ce témoignage, être une bénédiction encore, malgré les offenses, malgré les blessures. Père, on veut te demander de venir exercer ton ministère envers nous, ici ce matin. Toi, tu connais les cœurs, tu connais toutes ces blessures pour lesquelles personne n'aurait voulu lever la main. Toi, tu connais nos cœurs, Seigneur, et je veux te demander de venir exercer le ministère de ton Esprit Saint dans nos cœurs cette semaine. Viens, Seigneur, aide-nous à avoir le courage de reconnaître, d'écouter le discours intérieur de notre cœur pour dire, en fait, c'est pas réglé, je pensais que oui, mais ce n'est pas. Et enseigne-nous, Seigneur, à libérer, à laisser aller, laisser la justice divine s'exercer, pas la nôtre. Ô Seigneur, viens nous bénir comme assemblée, parce que nous voulons, Seigneur, être une bénédiction pour les gens que tu nous envoies, pour les gens autour de nous, pour nos enfants, pour nos proches. Nous ne voulons pas, Seigneur, perpétuer toutes ces racines d'amertume destructrices, mais nous voulons être un peuple transformé par toi, pour ta gloire, Seigneur Jésus. Amen.